direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Elle est la première cinéaste d'ascendance africaine à avoir été retenue dans la compétition officielle du prestigieux Festival de Cannes. Et avec succès, puisque le jury, présidé par Alejandro González Iñárritu, a décerné le grand prix à son film Atlantique. Plus que pas mal pour un premier long métrage qui a su toucher le cœur des festivaliers et qui s'apprête à déferler dans les salles obscures françaises. Un film hybride tourné à Dakar avec des comédiens non professionnels pour la plupart, qui tient de l'histoire d'amour, du thriller social, avec une bonne dose de polar et de fantastique, et qui nous parle avec poésie et émotion d'exil, de ceux qui partent et de ceux qui restent, et de revenants aussi. Mathilde Diop est avec nous, son film Atlantique sort donc demain sur les écrans français, et vous m'en direz des nouvelles. Mathilde Diop.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. L'histoire du film commence sur un chantier, le chantier d'une tour à l'aspect futuriste qui s'élève comme ça fièrement, un peu comme un totem. Vous ne l'avez pas construite pour le film, cette tour?
Non, j'aurais utilisé le budget pour faire la suite déjà d'Atlantique. Non, c'est enfin, je préfère pas révéler quoi que ce soit aux spectateurs quant à cette tour parce qu'elle existe dans le film, donc elle existe.
Elle existe, mais en même temps, c'est un symbole.
C'est un symbole, absolument.
Parce que la toile de fond du film, c'est aussi une certaine forme de capitalisme.
Oui, en fait, l'idée, c'était de commencer le film sur l'idée d'une ville future qui, voilà, qui incarnée par cette tour qui ressemble à un mirage, quoi. Et c'était aussi une manière d'ancrer la dimension science-fiction du film, aussi incarné par cette tour, et de mêler la question du futur à du fantastique, à de la science-fiction, voilà, et surtout de parler d'un futur construit à partir de bases extrêmement fragiles, puisque les ouvriers qui sont en train de construire cette ville future ne sont pas payés depuis des mois.
Alors, les scènes de chantier, justement, vous les avez tournées à Diam Niadio, hein, on est au cœur de la plateforme du millénaire, projet qui est en cours, hein, qui est en construction du côté de Dakar, en train de voir le jour. Est-ce qu'il faut voir, justement, dans ce choix-là, Mathilde Diop, une critique de la plateforme du millénaire?
Quand j'ai commencé à écrire, enfin en tout cas à écrire non, mais quand j'ai les premières idées sont arrivées quand même assez il y a longtemps et j'avais pas encore pris connaissance de ce projet Diam Niadio. En revanche, je me suis inspirée du projet qu'avaient ensemble Ouad et Kadhafi de construire la tour la plus haute d'Afrique, la première tour solaire. Et à ce moment-là, il me semble que quand j'ai pris connaissance de ce projet qui n'a donc pas eu lieu puisque Ouad a été invité à quitter le pouvoir et Kadhafi abattu. Voilà, cette tour n'a jamais vu le jour. J'ai trouvé ça passionnant de la faire exister dans une fiction, dans un film. Et c'est vrai que c'est plus tard, quand j'ai vraiment commencé la coécriture avec mon co-scénariste Olivier Demangel, que j'ai pris connaissance de Diam Niadio, qui est une ville destinée à la vie haut de gamme.
Et à côté de quartiers qui le sont beaucoup moins.
À côté d'une ville, Dakar, dont les fondamentaux, que ce soit la question que ce soit l'électricité dans certains quartiers ou la gestion des canalisations ou la question des déchets. Qui s'occupe de en fait c'est une ville qui est quand même assez chaotique, qui dont certains quartiers sont vraiment fragilisés par un manque d'infrastructures énormes. Et c'est vrai que voir cette ville qui coûte des millions être construite à côté, en sachant que voilà, les fondamentaux ne sont pas encore n'existent pas à Dakar dans certains quartiers. Évidemment que c'est quelque chose qui voilà, que j'ai du mal à comprendre, mais
on voit ce contraste très très tôt dans le film, parce que les ouvriers qui travaillent sur le chantier de la ville future, de cette espèce de projet un peu gigantesque, eh bien eux ont du mal à vivre, tout simplement parce qu'ils ne touchent pas leur salaire. Donc on arrive vraiment en plein conflit social, ils commencent un petit peu à bouger, ces ouvriers qui ne sont pas payés depuis des mois. Et ce sont eux qui vont donc braver l'océan pour tenter de trouver une vie meilleure en Europe. Parmi eux, il y a Souleymane, qui est amoureux de la jeune Ada, qui est promise à un autre homme, Omar, et qui lui est bien plus riche. Ils se voient donc en cachette, Souleymane et Ada, bande annonce.
Je suis en 10 jours avec Omar.
Tu es
là,
je suis
là. Je suis là.
Inspecteur Issa Diop, il va charger de l'enquête.
Souleyman, nous avons des concepts, crimes que nous avons fait. Nous avons fait des choses.
Depuis une
semaine.
Alors Mathilde Diop, on a entendu là de temps à autre quelques mots de français, mais ils sont extrêmement rares dans la bande-annonce, et ils sont peut-être encore plus rares dans le film qui a été tourné en Wolof, la langue de ces jeunes qui habitent évidemment ce quartier de Dakar. C'était une évidence de tourner en Wolof?
Absolument, c'était une évidence. Pour moi, ça coulait de source. Après le choix d'engager mon cinéma à Dakar, c'est le troisième film après un premier court et un moyen, Atlantique avec un S et Mille Soleils, que je tourne à Dakar, et j'ai toujours tourné dans cette langue. Parce que je dirais pas que c'est un automatisme, parce que je me rends bien compte de que c'était un vrai choix de proposer cette langue-là aujourd'hui dans le monde, que c'est mais que à partir du moment où mes histoires s'ancrent vraiment dans des réalités sociales, économiques très précises, et que c'est la langue le plus parlée là-bas, oui, c'est une évidence. Après, ça aurait pu nous enlever quelques guichets de financement en France, mais on a eu de la chance. Le CNC n'exclut pas cette langue de ces guichets.
Le CNC, le Centre National du Cinéma.
Voilà, pardon. Mais même si ça avait été le cas, je n'aurais jamais renoncé à cette langue.
Alors, l'actrice principale, d'ailleurs, Mama Sané, qui joue le personnage d'Ada, ne parle d'ailleurs que le Wolof. C'est pas une actrice professionnelle. Elle est absolument formidable d'un bout à l'autre du film. Comment est-ce que vous êtes tomber sur elle, si je puis m'exprimer ainsi?
Alors, c'est ce qui est particulier, c'est que c'est celle que j'ai trouvée en dernier. Le casting a duré 7 mois, parce que justement, on a mis énormément de temps à trouver Mama Sané. Tous les personnages se sont trouvés dans un temps relativement assez raisonnable, dans différents endroits de Dakar. Et c'est vrai qu'à 2 mois du tournage, je n'avais toujours pas trouvé Ada.
Qu'est-ce qui n'allait pas dans celle que vous aviez croisée?
J'en ai croisé aucune.
Aucune ne convenait au rôle.
J'en ai croisé aucune et pourtant j'étais entourée d'une super équipe de casting dirigée par Baïja Alamrani, la directrice de casting. Mais à part une fille qu'elle m'avait proposée, qui avait quelque chose qui était intéressante, mais dont je suis jamais vraiment... Je la trouvais pas mal, mais c'était pas Ada pour moi. À part cette fille qu'elle m'a proposée, ce qui est très très étonnant, c'est que ce soit pour le rôle d'Ada ou de Souleymane ou d'Issa, les trois personnages principaux, à vrai dire, il n'y en a jamais eu qu'un, il n'y en a jamais eu qu'une. Et donc, comment ça s'explique, je ne sais pas. C'est vraiment les mystères et la magie du casting. En tout cas, voilà, moi j'ai un rapport très très fort à ça, aux acteurs, au casting. Je pense que c'est pas un hasard que j'ai trouvé Mama en dernier. Je pense que ça m'a permis aussi de construire en fait tout son petit monde avant qu'elle n'émerge, avant qu'elle arrive. Et je l'ai rencontrée au moment où je ne la cherchais plus. J'étais en repérage à Thiaroy, avec mon collaborateur assistant Fabakari Asimbikoli et le chef d'écho, l'un des deux chefs d'écho, Thomas Bakeni. On était à Thiaroy, le long des rails, on marchait, et je vois une fille sortir de chez elle et faire demi-tour, re-rentrer, comme une image subliminale. Elle est sortie, elle est re-rentrée. J'ai continué à marcher un peu en me disant, tiens, il faut... J'y croyais pas.
Oui.
Mais je me suis dit, je vais quand même peut-être aller faire une photo d'elle pour montrer à la directrice de casting que c'est exactement cet âge-là. Et finalement, on est allé la voir et puis je me suis rendu compte qu'elle parlait pas français et en même temps ça me posait absolument aucun problème, c'est plutôt mon problème si je parle pas wolof.
Mais justement Mathilde Diop, ce qui vous a fait tilt en quelque sorte à la fois dans l'œil et dans votre tête, c'est quoi? C'est que Mama Sané ressemblait à votre personnage? C'est ça que vous cherchiez? Pas quelqu'un qui puisse jouer le personnage, mais quelqu'un qui puisse l'incarner presque naturellement?
Bah, c'est tout ça à la fois. Je l'ai croisée furtivement. J'ai trouvé qu'elle avait de l'allure.
Vous dites, elle avait quelque chose.
Ce quelque chose, c'est l'intuition que, oui, c'est une intuition très forte que c'est elle. Et après, on peut tomber sur quelqu'un de magnétique, d'intéressant, qui se rapproche de son personnage, mais je me suis dit que c'est avec les parents que ça allait bloquer, qu'il y avait mille raisons, que ça ne marche pas. C'était un défi complètement dingue de trouver une fille dans Dakar de cet âge-là, à la fois qui accepte, qu'il soit suffisamment charismatique pour tenir un rôle principal. Ça, on va dire que les jeunes gens habités et charismatique à Dakar, ça ne manque pas. Je pensais que j'aurais même l'embarras du choix. Mais au fond, ben, je me suis rendu compte que non, que même à Dakar, où je crois qu'on est à quoi, 65% de jeunes, même à Dakar, en fait, les perles rares et Ada que je cherchais, qui devait réunir énormément de qualités à la fois, ben, j'en ai trouvé qu'une et donc ça tient à quoi ça tient? Alors, moi qui parle jamais de destin, et ben là, je trouve que il y a quelque chose de cet ordre-là.
On va dire un clin d'œil de la vie, en tout cas, au minimum. Mais alors, Mathilde,
c'est trop léger.
C'est beaucoup plus fort que ça. Ouais. Bon, un clin d'œil du destin. Alors, disons-le. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il était exclu à la base que vous travailliez avec une comédienne professionnelle?
Mais parce que déjà, je croyais pas trop dans le fait que qu'à cet âge-là, entre les personnages de mon film ont entre 18 et 25. À cet âge-là, qu'est-ce que ça veut dire d'être acteur professionnel, à moins de sortir du conservatoire, d'art dramatique? Mais à Dakar, il y a quelques formations, mais voilà, je pensais pas trouver des professionnels de cet âge-là. Et même si c'était le cas, j'aurais pu évidemment les rencontrer, leur faire passer des castings. Et j'ai aussi rencontré des professionnels. Mais moi, je m'intéresse surtout à la dimension documentaire du casting, même si au final c'est pour une fiction, parce que j'ai besoin qu'au-delà, en fait, finalement, le fait de bien jouer ou pas, c'est pour moi c'est pas à cet endroit-là que bien jouer, c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien jouer, ça, c'est en fait être le personnage qui compte, et les personnes que j'ai choisies, vers lesquelles je suis allée, sont surtout connectées aux réalités sociales des personnages que j'ai écrits.
Oui, sauf que vous savez très bien, Mathilde Diop, que quand il y a une caméra sur place, autour de vous, forcément, instinctivement, moi le premier, on ne vit pas forcément de la même façon. Donc il faut être naturel, y compris si le rôle qu'on a ressemble à soi-même. Ça, c'est très compliqué dans ces cas-là. Comment vous avez fait pour former, parce qu'on ne devient pas comme ça, actrice en un tour de main?
Non, c'est un ensemble de choses, mais ce que j'essaye de dire, c'est que c'est pour moi la chose la plus importante réside vraiment dans le choix de la personne. Et à partir du moment où ce bon choix-là est fait, ensuite, le travail qui reste à faire, je le trouve finalement plus simple à entreprendre. C'est vraiment faire en sorte que la personne comprenne extrêmement précisément ce qu'elle joue, ce qu'elle vit, ce qu'elle défend à travers le personnage, qu'elle comprenne les enjeux très clairement. Et ensuite, c'est des exercices bêtes et méchants de mise en confiance,
et puis on répète,
on
et puis on fait un nombre de prises assez conséquent.
Oui, ça dépend des prises, mais pour moi, le travail de répétition et de construction du personnage, entre guillemets, il est presque, en tout cas sur ce film-là, il a été important, il a compté, on a beaucoup travaillé, on aurait pu travailler beaucoup plus d'ailleurs, mais c'est vraiment au moment du choix, c'est ça qui est le plus important, c'est de trouver la bonne personne.
Alors, ça donne en tout cas des scènes qui sont criantes de vérité, parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles sont sincères aussi, sans doute, comme celle-ci qui se déroule au bord de l'océan. Ada reproche d'ailleurs gentiment à son ami Suleiman de regarder l'océan plus qu'il ne la regarde, et ça en dit assez long quand on connaît évidemment la suite du film. Et la scène se termine par un tendre baiser, hein, Mathy Diop. On est donc à l'âge des premiers émois amoureux, des histoires dont on ne sait pas si elles auront un vrai lendemain, mais qui peuvent compter, hein, dans la construction d'une personne, qui peuvent vraiment marquer une vie. Ada et Suleiman sont amoureux, ils se voient en cachette, puisque comme je le disais tout à l'heure, Ada est promise à un autre homme, un homme de bonne famille, qui a de l'argent, mais dont elle n'est pas amoureuse.
Oui, qui a de l'argent, de bonne famille, mais surtout qui revient d'Italie. On le comprend plus tard dans le film, dans la scène de discussion entre filles au mariage, qu'Omar est un immigré. Et pour moi, c'était important qu'il vienne de là. C'était important de raconter en filigrane qu'on lui accordait plus de valeur, pas seulement parce qu'il avait fait fortune, mais aussi parce qu'il était passé par l'Europe et que quelque part, on le regardait... voilà, on lui accordait davantage de valeur pour cette raison-là.
Voilà, mais pas du tout dans les yeux donc d'Ada, qui elle n'a vraiment de regard que pour son Suleiman, et donc son Suleiman, on le sait évidemment, va s'embarquer dans une pirogue donc pour quitter le Sénégal, tenter sa chance en Europe comme tant d'autres migrants. Il part sans la prévenir, hein, et du jour au lendemain, elle se retrouve seule, abandonnée, résignée, à faire ce que sa famille veut, donc à épouser Omar. Et puis, il va se produire des choses assez curieuses, c'est le moins qu'on puisse dire, le jour de son mariage. Il va y avoir une enquête. Ada va être soupçonnée de pas être tout à fait innocente dans ce qui va se passer. Et donc, très vite, l'ombre du mystère s'abat sur vos personnages. Mathy Diop, tout ça, c'est une chance pour Ada. On a l'impression qu'elle grandit d'un coup, en fait.
Oui, alors... L'idée, en effet, c'est de commencer avec une jeune fille qui aime Suleiman d'un amour pur, mais qui est déjà dans une sorte de stratégie de survie en acceptant d'épouser cet homme qu'elle n'aime pas, tout comme Suleiman est dans une stratégie de survie à lui en prenant cette pirogue pour l'Espagne. Et en effet. On va finir par comprendre que derrière cet incendie, il y a un retour. Et en effet,
Parce que Souleymane est suspecté d'être à l'origine du feu au moment de la fête de mariage.
C'est ça. Et on comprendra au fur et à mesure que ce retour de Souleymane, sur lequel l'enquêteur enquête, j'essaye de pas en révéler
sûr,
trop aux spectateurs, que Souleymane ne revient pas seulement pour lui faire ses adieux, mais aussi pour provoquer quelque chose en elle, pour lui permettre de se confronter à elle-même, de se confronter à elle va devoir faire un choix, elle va devoir ouvrir les yeux. En fait, l'idée c'était vraiment à partir du moment où Souleymane disparaît, à partir du moment où Ada traverse et expérimente la perte, que ce soit quelque chose qui l'ouvre à une nouvelle dimension d'elle-même et qui fasse tomber en fait le filtre à travers lequel elle regardait le monde et qu'un dérèglement à la fois de son rapport au réel, de son rapport aux autres, mais surtout à elle-même, s'enclenche.
Est-ce qu'Atlantique est un film féministe, Mathilde Diop?
Oui, absolument. Après, ce n'est pas de cette manière-là que je l'ai. Disons qu'il l'est devenu. Disons qu'il peut être interprété de la sorte. Si vous voulez, c'est un film surtout qui est très personnel, très politique. La volonté, le désir, la nécessité d'avoir écrit pour un premier long métrage un personnage féminin fort, Ada, entouré d'un groupe de filles qui s'émancipe, qui traversait par une métamorphose, bien sûr que c'est une
jeune fille qui va pouvoir choisir, qui va pouvoir affirmer sa liberté, qui va pouvoir exister par rapport au monde dans lequel elle vit.
Voilà, mais dire qu'il est féministe, c'est tout à fait juste. Après, c'est pas, je me suis pas réveillée en me disant tiens, je vais faire
mais
un film féministe.
C'est pas un film militant féministe. Vous n'avez pas voulu faire ça à la base, mais c'est le féminisme, enfin l'engagement qui vous a rattrapé en quelque sorte en cours d'écriture.
C'est une seule et même chose en fait. C'est une démarche très personnel et très politique, et c'est vrai que le politique chez moi vient enfin en fait c'est vraiment à travers le cinéma, l'écriture, la manière de fabriquer les films, tout le choix de la langue, le choix des acteurs, les personnes que je choisis pour m'accompagner à faire ce film, c'est tout ça qui est politique.
Il y a beaucoup de filles effectivement autour d'Ada, hein. Il y a notamment un personnage qui s'appelle Dior qui est joué par Nicole Sougou et qui est très différente à l'écran, même dans sa façon de se vêtir, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de parler, dans ses réflexes de vie. Nouvel extrait.
Joe, what am I doing? You talk with Ken.
Hey, I've been looking for you. You're not my wife.
No, that's wrong. What? Man, look, Masawati, what? Man, look, Masawati.
I'm
in business.
Man, bah, na.
Pardon. S'il te plaît, sérieux.
Yolanda,
what? Lima lay wax ni dok wax ken.
Billahi Adam wax ma lan la yak ne titel.
Souleymane ni fi.
Lan lay wax ni?
Wala bisan bi.
Khalas. Yolanda.
Ana nigis.
Voilà, c'est quoi ce délire, hein? C'est comme ça qu'on peut traduire cette phrase en wolof, cette dernière phrase que Dior prononce, hein. Donc les deux jeunes filles sont dans un café, hein. Donc elles commandent un café serré d'ailleurs, hein, Dior, qui est habillé un peu plus à l'occidental, on va dire, que sa copine Ada. On sent qu'elle est plus émancipée, plus ouverte, plus peut-être plus libre.
Elle est pas plus émancipée parce qu'elle est plus occidentale, mais en tout cas elle s'est affranchie d'un certain nombre de règles, oui.
Voilà, et le moins qu'on puisse dire, effectivement, c'est que sa dégaine, son allure, ses vêtements, sa façon de s'exprimer sont différentes, hein, effectivement, de celle d'Ada. Vous avez rencontré, Mathilde Diop, des jeunes filles de la jeunesse dakaroise pour pouvoir, comme ça, écrire vos personnages dans le film?
Bien sûr, tout vient de là, de rencontres que j'ai faites, que j'ai provoquées, à partir desquelles j'ai... J'ai mené des sortes d'ateliers de discussion autour de, en fait, suite à la première version de mon scénario, j'ai écrit avec mon co-scénariste, nous avons écrit assez longtemps sans que je n'aille me documenter sur place, puisque j'avais déjà accumulé énormément de matière au cours des dernières années. Et en revanche, lorsque une première version a été prête, j'ai voulu, pour les dialogues, en effet, rencontrer des jeunes filles, parce qu'il y avait des choses que j'arrivais à écrire en, voilà, à travers les rencontres que j'avais déjà faites, l'expérience et tout, mais il y avait quand même, au niveau de la précision du langage, des choses que j'avais envie de vérifier. Et puis, comme c'est une société qui se transforme très vite, c'était important d'aller vérifier quelques exactitudes documentaires. Et donc j'ai commencé le casting comme ça, d'ailleurs, en castant des filles en boîte de nuit, et on a eu des discussions assez longues sur des thématiques comme le mariage, le rapport aux hommes, à la religion, au sexe, à l'émancipation, et c'est à partir de ces discussions là qu'en effet un certain nombre que certains personnages se sont affinés, et c'est vrai qu'autour d'Ada, entre Dior, Ada, Mariama, on a comme trois archétypes, et en même temps dans le mot archétype, il y a quelque chose d'un peu monolithique, parce qu'elles sont toutes très complexes, elles ont chacune une personnalité vraiment complexe. Mariama qui porte le voile dans le film, et Fanta qui conseille Ada de prendre tout le fric qu'elle peut d'Omar sans scrupule, et de comme ça elles pourront profiter de la maison, et en même temps elles n'existent pas qu'à travers ces caricatures non plus, elles ont vraiment chacune une personnalité propre. Et
est-ce que vous êtes parti à travers ce film à la recherche non seulement de la jeunesse de Dakar d'aujourd'hui, mais un petit peu de celle que vous n'avez pas eue vous-même, Mathilde Diop, puisque vous êtes une expatriée, sans forcément être arrivée au niveau d'Omar qu'on évoquait tout à l'heure, mais il y avait une part de retour aux sources aussi dans votre façon de concevoir ce film?
Ah, complètement, et ce retour vers cette reconquête de mes origines africaines, Elle a commencé en 2008 avec le court-métrage Atlantique, et c'est vrai que le long-métrage en a été une sorte d'aboutissement, de complétude, et c'est vrai que ce soit tout le temps que j'ai passé à caster les acteurs en explorant différentes zones de Dakar, de jour comme de nuit, ou les rencontres que j'ai faites avec les comédiens, ou enfin tout ce que l'expérience humaine artistique toute cette exploration ces rencontres et cette expérience artistique humaine, en fait c'est une sorte d'accumulation de vécu sur place que j'ai eu le sentiment, en effet, de venir rattraper. Et ça, je m'en suis rendu compte, en effet, au moment de la prépa, au moment du tournage. Et c'est vraiment au montage, quand on a une sorte de recul sur toute l'aventure que ça a été, qu'on comprend les raisons profondes qui nous ont motivés à commencer à écrire. Et en fait, c'est en effet l'une des raisons, ouais.
Alors, on va revenir justement sur votre parcours avec un autre regard, celui d'Amélie Beaucourt.
Comme une pirogue perdue entre deux continents, le cœur de Mathilde Diop a longtemps balancé entre Paris, où elle est née un beau jour de l'été 1982, et Dakar, terre de ses ancêtres paternels, où elle se rend régulièrement. Deux pays séparés par un océan singulier, mais par tant d'histoires complexes et plurielles qu'elle décide d'en faire son premier court-métrage, Atlantique, avec un S donc, pour raconter la vie, la vraie, de ceux qui le traversent, la réalité des Atlantiques que les gros titres des médias à cette époque échouent à restituer. Ce cinéma proche des origines et de la terre natale se retrouve aussi dans son deuxième court-métrage, Big in Vietnam, dans lequel on suit les pas d'une réalisatrice d'origine vietnamienne, perdue entre ses racines et l'époque contemporaine et cosmopolite dans laquelle elle évolue.
Tu dois avoir de la famille là-bas, non ?
Si, j'ai peut-être une vieille tante du côté de mon grand-père.
Élève à l'école du Frénois, à Tourcoing dans le nord de la France, Mathilde Diop passe aussi plusieurs fois devant la caméra, peut-être plus pour observer le travail des réalisateurs que pour l'amour du jeu.
Noé s'en va !
En 2008, elle joue Joséphine dans le film 35 Roms de Claire Denis, un film qui raconte la relation père-fille et cet éternel dilemme quand on aime quelqu'un mais qu'on doit prendre son envol, partir ou rester.
Tout le monde se bat.
Cette question, elle ressurgit souvent dans l'œuvre de Mati Diop, notamment en 2013, lorsqu'elle réalise « Mille soleils », un film tout particulier pour elle, puisqu'il a pour point de départ un autre film culte du Sénégal, « Touki Bouki », réalisé par son oncle, Djibril Diop Mambéty.
Plus j'ai posé de questions, plus finalement j'en ai appris sur ma propre histoire, sur ma famille, sur mes origines africaines, sur l'origine du cinéma dans ma famille.
Un beau parcours donc, rythmé d'aller-retour entre racines et temps présent, et ponctué un beau jour par ceci.
Le grand prix du jury est attribué à
Atlantic pour Mati Diop.
Nous sommes le 25 mai 2019, sur l'estrade de l'auditorium Louis Lumière à Cannes. Sylvester Stallone en personne remet à une Mati Diop tout émue et un peu déstabilisée peut-être le grand prix du jury du Festival de Cannes pour son film Atlantique, au singulier cette fois. 27 ans après la montée des marches de son oncle, c'est elle qui devient un modèle pour le 7e art sénégalais. La victoire de Mati Diop cette année ressemble à son cinéma tout entier. Un cinéma du réel avec de vraies personnes, de vraies émotions, des blessures et des chagrins sincères et surtout un dernier ingrédient qui ne l'a jamais quitté. C'est son père, le musicien Oasis Diop, qui en parle le mieux.
Illuminer le monde par une histoire d'Afrique, une jeunesse africaine, un talent africain. Et c'est ce que disait Mati quand il disait « Mais oui, on peut faire des films aussi beaux avec nos moyens. Ici, comme à Hollywood, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de cœur. »
Il a raison, votre père, Mati Diop, c'est d'abord avec le cœur qu'on fait du bon cinéma.
Ça suffit pas.
Donc l'argent, ça compte quand même un petit peu, alors. Ça suffit pas non plus.
Ça suffit pas non plus, exactement.
Donc il faut un petit peu les deux.
Il faut beaucoup de choses, ouais, je crois.
Mais après Cannes, ça va être plus facile pour vous d'attirer des financements. On peut penser que ça va stimuler vos projets. Est-ce que ça risque pas de vous faire changer ?
Mais c'est des questions que je me pose tous les jours, mais ce qui me rassure, c'est que je crois que l'origine de mes films provient vraiment d'une nécessité. Et je sais pas si ça peut venir d'ailleurs chez moi. J'ai vraiment besoin je préfère ne pas faire de films pendant 5-6 ans. Parce que voilà, j'ai besoin de temps pour élaborer quelque chose ou pour proposer un projet, une quelque chose qui vienne de loin, qui dont je suis vraiment convaincue que ça, bah, que voilà, que ça peut avoir un impact, que ça a du sens politiquement, que je suis suffisamment engagée intimement dans ce projet pour le tenir, enfin pour l'habiter des années et des années, mais ça doit venir de là. C'est extrêmement précieux d'avoir plus de moyens, plus de possibilités. Évidemment, c'est précieux, mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on a vraiment à dire. Voilà, il y a de plus en plus de films qui sortent. Il faut vraiment être sûr que ce qu'on propose vient d'un endroit qui fait que personne d'autre que soi puisse le raconter comme ça, en fait.
Cannes, ça fait à peine 5 mois, même pas, à peine, oui.
Oui, c'est ça, 5-6 mois. Diop,
est-ce que les choses ont changé ? Est-ce que le regard que les gens de cinéma portent sur vous a changé ?
C'est difficile de vous répondre à leur place, mais bien sûr que globalement, je peux vous dire
ce que les choses ont changé pour
moi. Bien sûr, après c'est cette période, elle est aussi caractérisée par une telle multitude d'événements extrêmement intenses entre Cannes, la sortie du film à Dakar, Toronto, la sortie province, la promotion d'un film qui est vraiment un moment extrêmement intense où on donne énormément, on reçoit aussi beaucoup. En tout cas, j'ai la chance d'avoir rencontré jusqu'à présent un public qui répond au film de manière forte, de manière vraiment entière, et du coup c'est vrai que pour moi depuis 5 mois c'est une sorte d'accélération et d'amplification de émotionnelle, et mais ça me c'est quelque chose qui me solidifie beaucoup et qui en même temps est enfin c'est beaucoup de choses à la fois. Je suis pas sûre d'avoir un recul un recul très grand sur la situation pour le moment.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
Mathilde Diop, il y a dans le film des plans sur l'océan, sur la mer, vue du rivage, vue de la côte sénégalaise, des scènes assez contemplatives. Comment est-ce que vous avez voulu filmer l'océan ?
L'océan est vraiment une son magnétisme et la place qu'il occupe à l'intérieur de cette histoire est très particulière. Et en 2008, quand j'ai réalisé Atlantique, ce court-métrage, et que j'ai été le témoin assez proche d'une situation terrible où beaucoup de jeunes partaient en mer pour rejoindre l'Espagne, j'ai commencé à appréhender, à regarder l'océan différemment. Et à cette époque-là, les départs étaient tellement récurrents et cette histoire prenait une place telle que j'ai même commencé à imaginer l'océan comme complice en fait de cette machination et que j'ai commencé à l'imaginer comme une force qui attirait sa jeunesse dans ses tréfonds. Ça fait partie des premières images qui me sont apparues quand Atlantique quelque part se consolidait dans ma tête. C'est à la fois des rencontres, une situation sociale, politique, mais aussi des visions ou des articles. C'est un ensemble de choses qui constitue l'univers d'un film et l'océan dans son pouvoir d'attraction, son le fait qu'on oublie finalement que même si c'est l'Espagne et la Méditerranée qui va être gagnée pour la rejoindre, c'est cet océan dans lequel on se jette, c'est cet océan qui devient une sorte d'appel irrésistible, et j'ai voulu le filmer dans son mystère, dans ce qu'il a d'insondable,
avec un côté clair-obscur, quoi, avec un jour qui décline ou au contraire qui.
Mais pour moi, c'est vraiment l'un des éléments fantastiques du film, en fait. C'est vraiment l'élément fantastique du film. C'est filmer l'océan comme une planète hostile qui n'est pas faite pour être traversée, qui n'est pas faite pour l'homme. Et
voilà, tout simplement. Donc le côté fantastique effectivement du film, côté fantastique qui est aussi souligné par la musique composée par la koweïtienne Fatima Al-Kadiri. Pourquoi avez-vous fait appel à Fatima Al-Kadiri pour écrire la bande originale de votre film Atlantique, Mathilde Diop ?
Pour plusieurs raisons. J'ai découvert son travail en 2011. Et à l'époque, elle s'appelait Aïcha. C'était des chants religieux remixés. Et ça m'a tout de suite, plongé dans l'univers plastique des jeans que depuis enfant j'apprends à côtoyer quand j'ai passé du temps à Dakar enfant. Et ensuite, les premiers albums de Fatima m'ont énormément marqué. J'ai tout de suite été envahie, envoûtée par l'univers à la fois sombre, sensuel. Pour moi, c'était déjà de la musique de film. Le brassage culturel de sa propre musique, le fait que ce soit à la fois que ça vienne à la fois d'une culture liée au djinn et qu'en même temps ce soit brassé avec des éléments hip-hop, de la musique électronique, ça correspondait finalement à mon propre brassage à moi, et j'ai eu l'impression d'enfin avoir accès à une musique de ma génération, de mon temps, qui ressemblait à mon contemporain, au monde dans lequel je vis en fait.
Pourquoi fallait-il une dimension fantastique dans ce film qui est pourtant basé sur le réel, Mati Diop?
Parce que c'était le projet, c'était de consacrer un film à une certaine jeunesse disparue en mer, et que cette jeunesse est en fantôme. Je trouvais que le fantastique était le genre qui arriverait à traduire le mieux cette sensation de hantise, d'omniprésence de cette jeunesse qui en disparaissant laisse des traces indélébiles, et c'est aussi la question de la figure du revenant, pour parler du migrant. Et je savais que, et comme c'était un, ce que je voulais capter, c'était un fantastique inhérent au réel, pas un genre qui vient de l'extérieur et qui rencontre une réalité, mais au contraire un fantastique qui fait partie même de la réalité d'une culture, puisqu'il n'y a pas de division entre réel et fantastique en Afrique, ni entre le visible et l'invisible. Et donc, comme je ne voulais pas surcharger le réel d'un fantastique mis en scène de manière trop démonstrative, la musique de Fatima Al-Kadiri, je savais qu'elle prendrait en charge une partie assez énorme de ce fantastique-là, et que j'avais pas forcément, en termes de mise en scène, besoin d'aller vraiment dans les effets du fantastique, mais vraiment, au contraire, capturer ce que le réel a de fantastique là-bas. Et comme je savais déjà en tournant le film que ce serait Fatima Al-Kadiri qui composerait la musique, je pouvais, du coup, ça me permettait, en termes de curseur, de pas forcément trop charger la mise en scène des faits fantastiques, quoi.
Dans Atlantique, le documentaire, cette fois-ci, donc le court-métrage, oui. Il y a un personnage qui s'appelle Sérigne et qui dit dans le film, quand on décide de partir, c'est qu'on est déjà mort. Vous êtes d'accord?
Moi, j'ai pas vraiment à être d'accord, en fait, parce que c'est pas vraiment la question d'être d'accord ou pas, dans la mesure où c'est un personnage qui me raconte sa traversée en mer entre Dakar et l'Espagne, et que moi je suis là pour recueillir cette parole, pour justement, sans me poser la question de si ce qu'il me raconte est vrai ou faux, à partir du moment où je le filme et que l'idée est qu'il se raconte à sa manière et qu'il confie sa traversée en mer, ce qui n'est pas confier ses vacances. C'était un moment extrêmement extrêmement éprouvant, et en tout cas c'est une phrase, une formule qui m'a profondément marquée, et je pense qu'il y a aussi participé à l'intuition qu'il fallait écrire un film de fantôme sur cette période, et que finalement la première expérience cinématographique que j'ai vécue à Dakar, c'est filmer un garçon qui, tout en étant en face de moi et en me racontant son histoire, passait son temps à me dire qu'il était plus là, qu'il était déjà plus là en fait.
Atlantique de Mati Diop, demain dans les salles en France. Merci beaucoup.
Merci à vous.
De voir.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avant de se quitter, une rencontre avec une jeune femme qui brûle les planches parisiennes, franc-parler chevillé au corps et humour à portée de main, Fadili Camara, issue d'un mélange détonnant, né de ses origines sénégalaises, marocaines et guinéennes, a fait ses armes au Jamel Comedy Club, rodé ses passages au Panam Art Café avant de monter sur scène au Point Virgule pour son premier one-man show intitulé « Plus drôle que la plus drôle de tes copines », un spectacle mis en scène par Fari, Kéla Soulessière est allée la rencontrer chez elle au cœur de Paris, dans le quartier de la République.
On peut retrouver Fadili dans le nouveau Paris de Canal+. Après Nulle part ailleurs et Le Grand Journal, Clique est le nouveau rendez-vous en access, jeune et branché, animé par Mouloud Achour.
Alors regarde tout de suite HF, Hakim Jemili, Fadili Camara.
Depuis la rentrée, on est chez Clique. C'est frais, c'est jeune. Ça touche l'ancienne génération comme la nouvelle génération.
Elle y collabore avec son mari et on pourrait facilement croire que travailler en couple n'est pas de tout repos.
Non, c'est plutôt cool. Il y a une très forte compréhension, on travaille ensemble, on se teste des vannes parfois. Et là, on a une petite routine chaque semaine qui est plutôt pas mal.
Alors évidemment, ma femme, elle est pas moche, vous la connaissez tous. J'ai la chance de partager une chronique sur cette même émission. Merci Mouloud, c'est vrai, hein, elle est pas moche du tout. Elle est normale de ouf, c'est pas la folie, mais ça passe.
Le stand-up est un domaine où la concurrence est souvent très rude.
On est beaucoup. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de stand-uppers, des spectacles. Il y en a tous les soirs. On est beaucoup.
Comme si le métier n'était pas assez difficile, un artiste noir est souvent vu comme communautaire.
Qu'on veuille l'entendre ou pas, il y en a. Ils te jugent à ta couleur, à ton ethnie. Peu importe ce que tu vas raconter, ils vont dire « Ouais, mais c'est communautaire. » Alors que pas du tout. Moi, mon premier sketch au Jamel Comedy Club, je me suis dit, ils vont se poser cette question. C'est une femme noire sur scène, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Est-ce qu'elle va nous parler avec un accent? Est-ce qu'elle va se mettre à danser? Bon, je l'ai fait. Mais je prenais ça à contre-pied.
Je vous jure, il y a des gens après qui veulent délire avec moi, mais ils savent pas comment faire. Et du coup, ils viennent et me parlent comme si c'était africain. Mais Fadili, c'est comment ?
Qu'est-ce que l'accent africain ? Parce qu'il y a Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Togo, et les accents sont absolument différents.
Qu'est-ce que le communautarisme, Fadili Camara ?
Faire les choses pour sa communauté et que pour sa communauté. Mais moi, sur scène, je parle de ce que je suis, de ce que j'ai vécu.
Avec cette grille de lecture, on peut se demander si les artistes ne sont pas contraints de s'auto-censurer.
Si, quand même. Tu te bloques. Et ça m'a beaucoup censuré.
Mais vas-y Fadili, t'es une femme, ça fait du bien. Saisis ta chance, là, parle au nom des femmes.
Ça m'a fait perdre beaucoup de temps aussi, donc aujourd'hui, je fonce et si j'ai un truc à dire, je le dis.
Quand on est femme et noire, les attentes et les clichés sont donc nombreux. Mais qu'est-ce qui est le plus discriminant ? Être femme, être noire ou venir de banlieue ?
Le plus discriminant, c'est en tant que femme noire. Moi, on m'a vraiment déjà dit, j'aime bien Fadili, t'es féline, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que je miaule, que je te griffe ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Avant d'être noire, on est humaine. Des fois, quand on te fait certaines remarques, même par rapport aux cheveux, moi, franchement, j'en ris beaucoup.
Si je faisais un afro, j'entendais Fadili, t'es sérieuse, toi ? T'as pas de peine chez toi ? T'es au courant que la moquette, c'est sur le sol ? Du coup, j'ai fait quoi ? J'ai commencé à faire des tissages, des extensions, pareil. Fadili, t'es sérieuse, là ? Tes cheveux ont poussé depuis hier.
Loin de la définition d'elle-même qu'on lui impose, ses goûts et ses passions pourraient bien prendre ses détracteurs à contre-pied.
J'écoute du rock, j'écoute même du métal, j'écoute de la K-pop, j'écoute du rap, j'écoute de la country. Enfin vraiment, tant que la musique, c'est kitsch de dire ça, mais elle me fait voyager, ça me va.
Fadili Camara est à retrouver du lundi au vendredi à 19h55 dans Clique sur Canal+.
Kéla Soulessière dans VMDN sur RFI. Le journal dans une poignée de secondes. On se retrouve demain pour parler littérature, cette fois avec l'écrivain Santiago Amigorena. Il publie Le Ghetto Intérieur aux éditions POL et vous m'en direz des nouvelles.
Mine gone, gone for the gold.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.